Bienvenue à cette étude. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble dans l'épître de Paul à Tite. Nous venons de finir une série d'études dans les épîtres de Paul à Timothée, la première et la deuxième, ce qu'on appelle des épîtres pastorales, parce qu'il s'agit des épîtres qui sont surtout adressées à ceux qui sont appelés par Dieu à servir comme pasteurs et qui servent le Seigneur dans les assemblées là où il les a placés. Il y a beaucoup d'enseignements qu'il nous faut pour comprendre combien est sérieux d'être un prédicateur de l'Évangile. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se disent pasteurs ou prédicateurs. Ils aiment prendre ce titre, mais nous savons, selon la Bible, que ce n'est pas un titre ni une fonction que quelqu'un peut prendre de lui-même. Mais c'est Dieu qui appelle. Alors aujourd'hui, je voudrais lire dans cet épître de Paul à Tite, du verset 1 au verset 4. Mais avec le temps que nous avons, nous n'allons certainement pas pouvoir approfondir ces quatre versets. Et je mettrai l'accent plutôt sur le premier verset qui est un sujet très important. Il s'agit de la foi des élus. Beaucoup parlent de la foi, mais combien comprennent ce qui est la foi des élus? Et ici, nous voyons cette adresse et cette salutation de Paul à Tite, où il dit « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Les hommes sont des menteurs, mais voici le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. » Notez bien, Paul ne prêchait pas l'évangile de lui-même, mais c'est selon ce que Dieu lui a confié. Selon l'ordre de Dieu, et notez bien, il dit « notre Sauveur ». La manière qu'il parle ici de Dieu n'est pas dans une manière générique comme on entend parler aujourd'hui pour ne pas offenser qui que ce soit. Mais Dieu, notre Sauveur, il est le Sauveur d'un peuple particulier, appelé dans le verset 1 « des élus ». Nous allons voir l'importance de ces termes bientôt. Mais il écrit ça à Tite, qu'il appelle ici son enfant légitime, en notre commune foi. Nous savons que l'apôtre Paul n'était pas marié et il n'avait pas d'enfant dans la chair, mais il avait des enfants spirituels, dont il précise ici « mon enfant légitime ». Donc pour lui, ce n'était pas question simplement que Tite avait une profession de foi, comme ont beaucoup, mais il le considérait comme un véritable enfant en ce qui concerne la foi, c'est-à-dire la même manière que Dieu a révélé Christ dans l'apôtre Paul, il avait cette confiance que cette même révélation de Christ était en Tite. Alors c'est pourquoi il dit ici, dans le verset 4, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Et voilà, il répète encore, notre Sauveur. Il n'est pas le Sauveur de tous les hommes, sans exception, comme on entend prêcher aujourd'hui, mais il est le Sauveur de ses élus, ceux que le Père a choisis, qui se trouvent partout dans le monde, bien sûr, mais qui sont à Dieu par son élection éternelle, mais aussi par la rédemption et la justification accomplies à la croix pour ce peuple que le Père a donné à Jésus-Christ. C'est pourquoi on voit ici notre Sauveur, notre et exclusif, parce qu'il s'agit de la famille de Dieu. Il faut préciser toute chose dans le contexte. Alors, cette épître à Tite, comme je disais, fait partie avec les deux précédentes du groupe des pastorales, et on voit certaines caractéristiques entre cette épître et les épîtres que Paul a écrites à Timothée, mais aussi on voit quelques différences. Mais dans toutes ces épîtres, il s'agit principalement d'instructions de la manière que l'Assemblée doit être dirigée. Donc à travers cette épître, nous allons considérer dans ce premier chapitre cette adresse et les salutations de l'apôtre Paul à Tite. Il y avait déjà là un lien, une unité qui ne dépendait pas d'une organisation. Il y a beaucoup de pasteurs, prédicateurs qui ne peuvent pas fonctionner s'ils ne font pas partie d'une organisation. Paul et Tite étaient membres d'un organisme. Un organisme, c'est-à-dire le corps de Christ, c'était un corps vivant. Donc, chacun tirait ses mouvements et sa direction de la tête du corps, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le chef. C'est pourquoi ceux qui sont les prédicateurs, les serviteurs de Dieu, ils ne peuvent pas servir les hommes et les organisations, les dénominations, et en même temps dire qu'ils servent Christ. Je sais que c'est peut-être une parole choquante pour beaucoup parce qu'ils font partie des organisations et des groupes qui sont dirigés par des présidents, des vice-présidents, des secrétaires, des trésors. Et ceux qui font partie de ces organisations tiennent alors leur direction des hommes. Si on nomme un président, donc c'est lui qui est le chef. Mais en ce qui concerne l'Église du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul chef, il n'y a qu'une seule tête qui dirige le corps. Et c'est pourquoi, en écrivant dans Galates chapitre 1, Paul dit dans le verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Alors voilà une distinction très importante. Mais dans le reste de cette épître, surtout dans le premier chapitre, nous voyons que Paul a laissé Tite sur cette île de Crète pour aider dans la formation de cette assemblée que le Seigneur était à l'époque en train de susciter. Et il fallait une certaine structure. Quand on parle de l'Église étant un corps, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'organisation. C'est comme notre propre corps. Chaque membre a sa fonction. Mais la différence, c'est que chaque membre de notre corps tire sa direction de la tête. Et c'est comme ça dans le corps de Christ. Il y a beaucoup d'organisations. On a la forme et on a la structure. On a la constitution, bien sûr, sur papier. Mais il n'y a pas de vie. Et c'est comme un sépulcre qui est plein d'ossements. Parce qu'il n'y a pas de vie. La vie vient du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul a laissé Tite à Crète afin de pouvoir lutter contre les faussaires. Il faut dire que là où la vérité est prêchée, il y aura toujours le mensonge. Là où il y a le blé qui est semé, il y aura toujours aussi l'ivraie. Il faut s'attendre à cela. Alors, la Bible nous donne clairement des instructions pour contredire et lutter contre tout ce qui n'est pas conforme à cette parole de Dieu. Et puis, dans le chapitre 2 de cette épître de Tite, nous avons des exhortations qui sont données aux fidèles, à ceux que le Seigneur a appelés à lui-même par sa grâce et qui font partie de cette communauté, cette assemblée. Et comment ils doivent être un exemple de la grâce de Dieu dans les communautés où ils vivent. Il y a des leçons bien pratiques qui sont tirées de la grâce de Dieu et la doctrine de la grâce. Il y en a qui pensent que si on prêche la grâce, que cela va encourager les gens à vivre dans le péché, mais tel n'est pas le cas. Ce n'est pas la grâce qui pousse les hommes à vivre dans le péché, au contraire, c'est la grâce qui tire un cœur pécheur vers le Seigneur Jésus-Christ et garde ce cœur-là attaché à lui. Alors, nous voulons voir comment ces instructions sont données pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Et puis, ça finit dans le chapitre 3, à partir du verset 12 à 15, avec certaines recommandations particulières et salutations de la part de l'apôtre Paul. Il avait un cœur. Le Seigneur lui a donné un cœur pour ceux à qui il prêchait. Je rencontre pas mal de prédicateurs et des hommes qui se disent pasteurs qui n'ont pas un cœur pour les âmes de ceux à qui ils prêchent. Leur intérêt est simplement de gagner leur vie et garder la paix entre les gens et vivre d'une manière à avoir le respect des gens comme des prédicateurs. C'est pourquoi ils se donnent des titres comme pasteur ou révérend, docteur. Mais dans tout cela, telle n'est pas l'attitude d'un véritable serviteur de Dieu. Nous voyons ici avec quelle simplicité l'apôtre Paul s'adresse lorsqu'il dit ici simplement « Paul, serviteur de Dieu et apôtre ». Dans Tite 1, le verset 1, le mot « apôtre » signifie un messager, quelqu'un envoyé de Jésus-Christ. Je dois dire que si un prédicateur n'est pas envoyé de Jésus-Christ, suscité par le Seigneur Jésus et envoyé pour prêcher, donc ce n'est pas un serviteur de Dieu. Parce que Dieu n'a qu'un seul messager, c'est celui qui rend témoin de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà une petite introduction. En ce qui concerne Tite, d'origine, nous ne savons pas réellement d'où il est. Selon Galates, chapitre 2 et le verset 3, il est mentionné là par l'apôtre Paul. Mais selon ce que nous voyons, il serait né païen et grec. Païen signifie quelqu'un qui n'était pas juif de naissance. Mais ce que nous pouvons constater, c'est qu'il était l'objet de la grâce de Dieu et Dieu l'a appelé à Christ par sa grâce. Mais Paul ne se sentait pas contraint de le faire circoncis. Pour les Juifs, ça c'était une exigence qui était vraiment nécessaire, très important. Et donc, Paul, pour contredire cette pensée que les Juifs voulaient exiger qu'au moins, et ceci, il s'agit des Juifs qui, selon leur profession, s'attachaient à Christ, selon eux. Mais, en plus, ils mettaient cette exigence de se faire circoncis. C'était la seule cérémonie de toute l'ancienne loi qu'ils voulaient garder comme nécessaire. Mais nous voyons ce que Paul dit à ce sujet dans Galates chapitre 2, surtout au sujet de Tite. Nous voyons le témoignage de Paul, Galates 2, 14 ans après, cela veut dire après sa propre conversion, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Alors, ça c'est la première mention que nous avons, et ce fut d'après une révélation que j'y montais, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Donc, puisque Paul était un apôtre parmi les païens, c'est certainement là que Paul a rencontré Tite. On ne sait pas si c'était à travers la prédication de Paul que Dieu a fait en sorte que Tite était converti, mais cela n'est pas important parce que dans la conversion, nous savons qu'il n'y a qu'un seul auteur, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Dieu qui convertit les âmes à travers la parole. Et toute la gloire revient à Dieu et à son Fils Jésus-Christ en ce qui concerne la nouvelle naissance des pécheurs. Mais de là, il a pris Tite et il dit, je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Quand il dit cela, il s'adresse aux Juifs. Parce qu'il faut savoir, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions dans les cultures. Et les Juifs étaient fiers du fait qu'ils avaient la parole au départ. Et il y en avait qui étaient appelés par le Seigneur à Christ, mais le reste aveuglé selon la justice de Dieu. Alors lorsque de plus en plus des païens, des non-juifs, les Grecs, rentraient maintenant dans les assemblées, il fallait que Paul défendre. C'est pourquoi ils montaient à Jérusalem avec Barnabas et aussi avec Tite pour montrer aux anciens de l'église de Jérusalem que l'œuvre qu'ils faisaient était véritablement l'œuvre de Christ. Et nous pouvons lire de cette conférence qui a eu lieu à Jérusalem dans l'épître ou bien le livre des Actes des Apôtres. Mais il dit ici dans le verset 3, « Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut pas même contraint de se faire circoncis. » Quoi qu'il y en avait qui voulaient exiger qu'au moins cette partie de la loi soit respectée en faisant circoncire Tite, Paul a refusé. Pourquoi? Parce que les Juifs mettaient une importance là-dessus en ce qui concerne le salut. Or, le salut ne dépend pas d'une cérémonie. Le salut dépend de l'œuvre de Christ et Christ seul. Cette œuvre qu'il est venu accomplir dans sa vie parfaite et dans sa mort sacerdotale à la croix, il a versé son sang, il a accompli parfaitement la loi, donc il n'y a plus rien à ajouter. Le salut est de lui. Mais la raison pour laquelle Paul a pris cette position si dure en ce qui concerne ces Juifs est expliquée dans le verset 4 de Galates 2. C'est écrit, et cela à cause des faux frères. Il y en a qui prétendent être enfants de Dieu, frères, ils font profession d'embrasser Christ par sa grâce, mais sont des légalistes. Ce sont des gens qui croient qu'en fait, l'œuvre de Christ seule ne suffit pas pour nous rendre justes devant Dieu. Mais il faut aussi ajouter nos propres œuvres. Rien ne peut être plus loin de la vérité que cela. Alors, il dit, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pourquoi Paul a laissé Tite sur Crète, cette île, afin de mettre de l'ordre dans l'église à Crète, parce qu'il y en avait, comme il mentionne ici, qui se sont glissés parmi eux. Nous devons aussi faire attention dans nos assemblées, parce que les gens rentrent, ils s'asseyent, on imagine qui sont d'accord avec nous en ce qui concerne la foi, mais c'est avec le temps qu'ils se découvrent, qu'en réalité, dans leur cœur, ils sont encore attachés aux œuvres de la chair ou bien de la loi. Et voilà pourquoi ces gens s'introduisent dans nos milieux. C'est écrit pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Quelqu'un qui est légaliste, je dirais c'est comme les anciens communistes, il y en a qui existent encore dans le monde, qui veulent toujours dompter les populations et exiger leurs droits et pouvoirs sur les hommes. Ils ne savent pas comment vivre dans une société libre. Mais là où il y a la véritable liberté en Jésus-Christ, parce que c'est l'esprit de la grâce de Dieu qui dirige le cœur de chacun que Dieu a élu et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort. Il y a une liberté là de vivre pour Christ et servir le Seigneur Jésus-Christ, de vivre pour sa gloire sans être assujetti encore à des lois et des règlements des hommes. Et Paul dit dans le verset 5, « Nous ne leur cédâmes pas un instant. Et notez bien, en plus, nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité fût maintenant ou bien maintenue parmi vous. Comment est-ce qu'on doit résister aux exigences de ceux qui veulent venir prêcher la loi? Et voilà comment c'est trompeux dans la manière, les gens trompent dans leur manière parce qu'ils vont peut-être introduire leur légalisme sous la couverture de la grâce pour dire « Amen, oui, tout est accompli en Jésus-Christ ». Mais, et voilà d'où vient maintenant la différence quand ils disent « mais ». Alors, ils commencent à amener ça dans un autre sens. Alors, voilà pourquoi cette épître à Tite est importante. Et nous allons considérer ça avec détail en étudiant cette épître. Mais revenons maintenant dans cette épître de Tite, de Paul à Tite, le chapitre 1 et le verset 1. Comme je disais, le sujet que nous avons, c'est la foi des élus. Et donc, deux points à souligner, surtout dans ce premier verset. La foi des élus, premièrement, c'est le message exclusif des véritables serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de voix aujourd'hui, beaucoup de gens qui prêchent. Mais si nous voulons savoir ceux qui représentent Dieu et qui sont véritablement serviteurs de Dieu, alors ce serait par leur message. Ici, Paul dit à Tite dans le verset 1, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. La piété signifie la révérence pour Dieu. Quand les gens entendent ce mot pieux, ils s'imaginent que c'est une certaine manière de vivre qui est exemplaire aux autres et tout l'accent maintenant est sur eux comme l'exemple. Ça, ce n'est pas le sens de ce mot piété. Le mot piété a à sa racine une révérence absolue pour Dieu en ce qui concerne la gloire de Dieu. Et que l'homme est abaissé et Dieu est élevé, Dieu est glorifié, son Fils exalté. Ça, c'est la foi des élus et c'est le produit, le fruit de cette connaissance de la vérité. Alors, il y a trois points ici en ce qui concerne le message exclusif des véritables serviteurs de Dieu. Et notez bien, comme je disais déjà, la simplicité avec laquelle Paul s'adresse, serviteur de Dieu. Nous avons aujourd'hui dans la religion des gens qui aiment élever, exalter le prédicateur. Mais tel n'est pas le cas. Paul s'adresse ici comme serviteur de Dieu. Et cela en contraste avec ce qu'il était auparavant. Avant, il était un serviteur de la religion, un serviteur des hommes. Il faisait partie d'une hiérarchie dont lui-même il était élevé avec autorité devant les hommes. Voilà ce qu'il servait auparavant. Dans Tite chapitre 3 et le verset 3, il décrit ça comme servant ses propres convoitises. Et voilà ce qu'on peut dire de ceux qui ne sont pas appelés à Christ et qui servent leurs propres convoitises, comme c'est écrit ici dans Tite 3 et le verset 3. Il dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Il parle là de sa vie en tant qu'homme religieux. Bien sûr, tout cela parfois est caché parce que les gens ne voient pas le cœur, mais je vous dis que quelqu'un qui n'est pas appelé par la grâce de Dieu, donc cela veut dire qu'il sert ses propres convoitises. Et pour cela, il est condamné si Dieu, dans sa grâce, ne l'appelle à lui-même. Mais voilà le témoignage de l'apôtre maintenant, en écrivant à Tite, étant appelé par la grâce de Dieu. Voilà la force, voilà ce qui fait la force de cette vie en Jésus-Christ. Alors là, il est devenu libre, voilà la liberté dont on a parlé tout à l'heure, et libéré de cette servitude de la chair qui n'est que la corruption et désormais devenu serviteur de Dieu et de la justice de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ est venu mériter pour ses élus et que Dieu, à la fin de cette œuvre de Christ jusqu'à la croix où il est mort, il a versé son sang, maintenant Dieu déclare juste chacun pour qui Christ est mort. Voilà notre position devant Dieu, dans sa justice. Ce n'est pas en nous-mêmes, mais c'est en Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 3, et presque tout le chapitre, mais je vais lire du verset 1 au verset 14, parce que cela complète ce qu'on a lu tout à l'heure au sujet du ministère que l'apôtre Paul a eu pour être un apôtre parmi les païens. Mais ici, dans le chapitre 3, il décrit cette manière qu'il est devenu serviteur de Dieu. Et je dois dire que ce qu'il décrit ici n'est pas différent de la manière que ceux qui servent Dieu aujourd'hui dans la vérité, sont devenus serviteurs de Dieu. Il dit ici dans le verset 1, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Et puis, il dit, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. » J'ai eu quelqu'un qui m'a dit récemment que chaque fois qu'il m'entend prêcher, je prêche la même chose. Mais il a dit, je ne me plains pas de cela parce que c'est toujours le message de Christ et Christ crucifié. Alors je l'ai remercié pour cette observation parce que c'est mon témoignage. Chaque fois que je prêche, la manière que Dieu a fait grâce d'abord à moi, ce pécheur condamné à part l'œuvre de Christ. Alors, c'est pourquoi il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Ce message est salutaire. C'est ce que nous sommes en train de voir. Cette foi des élus, qui est l'évangile de Christ, la doctrine de Christ, est salutaire. Non seulement pour ceux à qui nous prêchons, mais pour nous-mêmes qui sommes des serviteurs de Dieu. Et il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Faux circoncis, s'agit de ceux qui se vantaient de leur circoncision selon la chair, c'est-à-dire les Juifs, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte. Voilà ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. Et je dirais le véritable Israël spirituel devant Dieu. Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte. Comment? Par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Alors, il donne ce témoignage et voilà la différence. Ce qu'il était auparavant en servant la chair et les œuvres et ce qu'il est maintenant comme serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Dit dans le verset 4 de Philippiens 3, « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, la loi. » Cela veut dire irréprochable à ses propres yeux. Et voilà l'aveuglement avant que l'Esprit de grâce ne se révèle dans le pécheur. Le pécheur se croit juste selon ses œuvres. Ce n'est que lorsque l'Esprit révèle Christ dans le cœur que cela viennent à constater qu'ils sont perdus et rien devant Dieu. Mais Paul est en train de décrire ses pensées et il fait ça d'une manière honnête. Il n'y a rien à cacher, ce qu'il était avant et maintenant ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. » À cause de Christ, lorsque Christ est révélé en nous par l'Esprit de la grâce et nous voyons qu'il est dans toute sa gloire, à l'honneur de son Père et comme le sauveur rédempteur de son peuple, alors tout ce que nous sommes maintenant n'est rien et Christ est tout. C'est pourquoi il dit dans le verset 8, « Et même je regarde toutes choses comme une perte » à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Ça, c'est le même langage que nous avons ici dans Tite chapitre 1, où il parle de la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Cette piété est en Jésus-Christ, ce n'est pas en moi. Cette révérence est due au Seigneur Jésus-Christ, non pas à moi. Quand les gens veulent mettre les regards sur nous pour dire « Ah, mais c'est un bon chrétien », nous serons les premiers à dire « Non, non, non ». Il ne s'agit pas de ce que nous sommes, mais il s'agit de qui il est en tant que Seigneur et Sauveur. Et c'est de ça que Paul parle. À cause, dans Philippiens 3, 8, de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et notez, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi ou bien de mon observation de la loi. Je n'ai aucune obéissance que je peux fournir parce que la loi ne fait que me condamner. Donc cette justice qui ne vient pas de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort. C'est-à-dire, lorsqu'il plaît à Dieu de révéler Christ en nous, nous voyons que la mort que Christ a accomplie, c'était pour les pécheurs, un pécheur tel que je suis. Je prends ma place au pied de la croix du Seigneur Jésus et je ne reconnais autre œuvre que sa croix. Voilà le sens que Paul dit en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ouais. Il ne parle pas de son espérance d'une manière hautaine, comme on entend certains parler aujourd'hui, puisqu'ils ont fait leur profession et ils ont récité une prière qui leur a été aussi citée, à répéter, et ils se croient maintenant sauvés, basés sur leur profession. Et quand on veut confronter cela avec la parole et mettre un point d'interrogation sur leur profession, bon, ils reculent parce que pour eux, ils sont déjà certains de leur salut. Mais la question, c'est sur quelle base? Si notre salut n'est pas basé uniquement sur l'œuvre de Christ et sa mort, donc il n'y a aucune vraie espérance là. Et ceux-là connaîtront certainement la condamnation. Alors, en revenant maintenant dans notre étude, dans l'épître de Paul à Tite, le chapitre 1, voilà le message exclusif des véritables serviteurs de Dieu. Mais pour finir, je dois dire en deuxième lieu que cette foi des élus est aussi le message exclusif de la parole inspirée de Dieu. Une foi des élus de Dieu est une foi qui est selon ce que les élus de Dieu ont professé et confessé depuis le début du monde, depuis la chute de l'homme, depuis le jardin d'Éden, quand Dieu s'est révélé d'abord à Adam et Ève, et en levant d'eux l'habillement des feuilles de figuier dans lesquelles ils se sont habillés, et en mettant sur eux les peaux d'animaux, des victimes expiatoires. C'est Dieu qui a prêché le premier message depuis le départ. Et cela, nous voyons dans Genèse chapitre 3. Dieu, par cet exemple, en immolant ses victimes à la place d'Adam et Ève, il a donné l'exemple de la manière qu'il allait sauver ses élus. Et cela dès le départ. C'est écrit dans le verset 21 de Genèse 3, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Voilà le message. Alors, cette foi des élus, c'est cette foi dont les Écritures annoncent le salut en Jésus-Christ. Et dans Jude, l'épître de Jude, il n'y a qu'un seul chapitre, mais le verset 3, Jude parle de cette foi des élus. Donc, c'est une foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est écrit, le verset 3, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Il s'agit de la foi qui est la doctrine de Christ, la manière à travers l'Ancien Testament. C'était annoncé sous forme d'images et prophéties et types. Mais c'est le même message, c'est la foi des élus. Les élus, ceux que le Père lui-même a choisis depuis l'éternité. Lisez bien dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1. Mais c'est une foi, c'est un message qui vise la justice de Dieu, qu'il fallait le paiement du péché par un sacrifice sanglant. Et lorsque Christ est venu, donc dans l'Ancien Testament, c'était une foi qui visait la venue de Christ au départ. Maintenant, c'est une foi, la même foi, qui vise cette œuvre accomplie de Christ. Mais la foi a toujours le même objet. C'est Christ et Christ crucifié. L'agneau immolé. Cela déterminé depuis l'éternité, mais maintenant accompli au moment où Dieu lui-même, le Père, a envoyé son Fils dans ce monde pour accomplir le salut et effectivement libérer ce qu'il a donné à son Fils. Et à cause de son œuvre, ils sont véritablement libérés. Dans Galates chapitre 4 et le verset 4, nous lisons « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin de nous, que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba » ou bien « Papa, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Quel message, quelle joie, quel sauveur, quelle délivrance, quelle rédemption, quelle justification, quelle réconciliation, quelle glorification. Tout cela en Jésus-Christ et dans cela je me réjouis. Alors nous allons nous arrêter là et ma prière, c'est que le Seigneur vienne bénir ce que nous avons entendu. Finissons par la prière. Seigneur, merci pour ce temps autour de ta parole. Merci pour tous ceux qui ont suivi et qui suivront plus tard. Je te remercie pour la technologie qui permet d'annoncer cet évangile dans le monde entier. Et c'est à toi maintenant de diriger cette parole là où tu daignes révéler Christ dans le cœur de pécheurs élus. Je suis vraiment reconnaissant que le salut est entre tes mains, parce que si ça dépendait de nous, personne ne serait sauvé. Et c'est dans ta grâce que tu as pourvu ce salut en ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et c'est dans son Saint-Nom que je te remercie. Et nous te prions. Amen.